Bonjour à
Tout le monde
tous.
qui s'installe, bonjour à tous. Bienvenue pour cette session d'introduction à Windows 8 et Windows Phone 8. Première session de la journée, j'espère que tout le monde a réussi à venir sans embûche. Je crois que ça arrive encore un petit peu. Eric Vernier, le célèbre Eric Vernier, présent
Avec
ici.
envie. Bon, vous avez vu, hein, on a pris la masse. Hein. Voilà,
Oui,
chez
là, on vous a
Microsoft,
sorti
c'est
du lourd.
1,90 m maintenant, hein, pour rentrer. Au cas où il y en a qui voudraient nous embêter. Chez un garde du corps là.
Oui, soyez gentils.
En fait, maintenant il a plus d'accent russe, mais avant il l'avait pas mal.
Bon.
Bon, enfin.
Nous sommes donc évangélistes chez Microsoft. Notre travail, c'est d'accompagner ceux qui veulent créer des applications, en gros, donc sur des aspects plutôt techniques. Aujourd'hui, donc, nous allons traiter de Windows 8 et Windows Phone 8 dans un principe d'introduction, c'est-à-dire de prise en main, de savoir un petit peu d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on va. Qu'est-ce qu'on va avoir à notre disposition? Et puis aussi, c'est une session d'aiguillage pour les sessions à venir, de dire voilà, qu'est-ce qui pourrait être intéressant d'aller voir dans ce cadre-là. Eric, tu n'hésites pas, si tu as envie de rajouter un truc. Un petit peu d'histoire. Alors, tu dis, hein, quand tu veux.
Je te laisse, vas-y.
Ça marche.
Il est
Ok.
timide encore, hein, j'en
Non.
voulais pas, bon c'est.
Un petit peu d'histoire. Donc, il est important de savoir d'où on vient pour bien comprendre, en tout cas, le chemin parcouru sur notre plateforme. Donc, comme vous le voyez, pour ceux qui ont de la barbe blanche, vous vous souvenez de ce passage de DOS à Windows avec vraiment cette fracture qu'il y a eu à un moment donné. Il y a eu beaucoup de questions pour savoir quelle était l'utilité d'un environnement graphique. Pour la plupart des applications, notamment je pense à la gestion, on s'est dit ouais, il n'y a pas plus efficace que le DOS pour faire tout un tas de choses, etc. Windows ne marchera jamais.
D'accord.
Bon, en fait, bon, je pense qu'aujourd'hui on peut dire que ça a marché, que en effet, ça valait le coup d'avoir cette rupture technologique avec une continuation. Alors tiens, Windows Presentation Manager, je te laisse en
Alors,
parler.
oui, c'est vrai que
Je laisse les
je
dinosaures
sais pas pour les. Alors, pour les
évoquer.
plus anciens, je sais pas si vous vous en rappelez, mais bon, on a beaucoup travaillé avec IBM à un instant T. Nous, c'était plutôt Windows, c'était plutôt S2, hein, et on a travaillé sur S2 conjointement avec IBM, et on a sorti sur OS2 en fait une couche de présentation. On avait Windows, nous, donc quand on dit Windows, on dit Windows 9X, Windows 95, Windows 3.1, Windows Me, etc. Et il y avait cette couche qui s'appelait Windows Présentation Manager. Je sais pas, y en a qui s'en rappellent ou pas? Quelques-uns. Il y avait même Office sur Windows Présentation Manager. Mais bon, on était un peu on était en bisbise après. Bon, après, on a sorti. Bon, on s'est un peu fâché avec. Bah, on s'est un peu. Bill Gates s'est un peu fâché avec IBM parce qu'il voulait Windows, Windows, Windows. Et donc on est arrivé nous avec un Windows NT. IBM était plutôt sur la partie Warp. Mais c'était sur le même micro, le micro kernel en fait, hein, issu de la même souche. Puis voilà, après on a évolué sur XP, Vista, 7 et
Voilà.
8 maintenant.
Alors en fait, donc il faut se souvenir de cette dualité avec d'un côté des OS avec comme cœur l'historique MS-DOS, de l'autre un microkernel passablement évolué avec une gestion de mémoire complètement différente, etc. Et ces deux ensembles ont cohabité un bon moment avant enfin de se réunifier et pour devenir ce que l'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne se pose plus tellement la question de savoir qu'est-ce qu'on va avoir comme OS à la maison par rapport à ce qu'on aura au bureau, voire même au bureau entre le PC de la personne qui fait la compta et celle qui va faire de l'animation 3D, etc. Donc aujourd'hui, on a un OS. Et ça paraît simple de le dire aujourd'hui, mais souvenez-vous bien que c'était un petit peu compliqué à l'époque. Ensuite, comme autre chemin parcouru, la partie smartphone. Ah, smartphone, on faisait partie des précurseurs hein, pour mériter la dénomination de smartphone. On peut dire bon, ça dépassait le cadre du téléphone avec juste agenda et contact. C'était à partir du moment où on permettait d'installer des applications, on avait vraiment franchi un cap. Hein, c'était une ouverture, un SDK disponible pour les développeurs, etc. Bon, force est de constater que je pense qu'on a dû louper un truc. On a dû s'endormir à un moment donné, je crois. Il y a eu quelque chose. Mais bref, on était là quand même au début. On a aperçu cet intérêt de la déclinaison des OS sur les différents devices. Donc le smartphone c'était Windows CE. Windows CE c'était aussi d'autres solutions embarquées notamment, etc. Et donc un autre OS, mine de rien.
Un autre
La tablette, bah, la tablette pareil, on n'était pas si mauvais quand même sur la tablette. Souvenons-nous de Windows pour tablette PC, c'était quand même quelque chose d'assez innovant. Il y a même eu des extensions tactiles ensuite, bon, qui n'ont pas été.
Au stylet.
Alors, il y a eu le stylet, c'est vrai. Il y a eu aussi la partie vraiment tactile, l'apparition des premières dalles capacitives. Donc, on avait quand même quelque chose. Maintenant, bon, faut admettre qu'on n'a pas poussé assez fort pour que vraiment l'écosystème s'en empare et crée des choses très intéressantes.
Mais
Enfin, on a vu quelques petites choses
voilà,
intéressantes dans
l'OS
Excel et
était
autres.
déjà prêt et puis
Mais l'OS était là.
les outils de développement étaient déjà prêts à réagir justement à ce type d'interface.
Voilà.
Et puis
Et puis un petit mot sur les outils de développement.
les petits mots sur les outils de développement. Donc moi, ça fait très longtemps que j'ai commencé à développer des drivers en fait, chez Microsoft. On a commencé avec un Programmer's Workbench. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un bon gros outil de développement sous DOS, où on pouvait faire à la fois du basique, mais aussi du C, du C++.
Voilà,
Bon,
donc on
après, on
avait
a
des
évolué,
outils
hein, on a...
distincts et on a vu l'avènement des IDE et donc de la réunification de tous ces outils.
Voilà. Et on arrive aujourd'hui, bah c'est ça, hein, cette convergence arrive aujourd'hui sur Visual Studio où on retrouve tous nos outils. Mais elle a pris du temps aussi, hein, elle a pris du
Voilà.
temps parce que c'est des équipes, il faut bien imaginer que ce sont des équipes complètement différentes en fait chez Microsoft.
Alors, tout ça, ça s'adosse sur une stratégie. Alors là, notez bien, c'est ma plus belle slide.
Belle slide.
Quoi? Si? Alors, il faut voir qu'il y a de cela 4-5 ans a émergé cette vision, en fait, hein, qui était trois écrans et un nuage. Vous avez dû en entendre parler, on l'associe pas mal à Microsoft. Donc, à cette époque-là, on se demandait un petit peu de quoi on voulait parler. Les trois écrans, on les avait à peu près repérés. On avait dit, bah voilà, il y a celui que vous avez dans la poche, celui que vous avez devant les mains ou sur le bureau, en tout cas, et puis celui que vous avez dans le salon. Donc ça, jusque-là, c'était assez clair. Et puis Microsoft s'est positionné, comme on l'a vu tout à l'heure, avec différents OS, différents devices, etc. Et pour la partie nuage, alors là, par contre, on a tous ouvert les grands yeux en disant, mais de quoi on parle? On voyait un petit peu ce que c'était que le web, on voyait les services qui étaient offerts, mais on ne voyait pas encore la notion de plateforme à proprement parler. Et on avait du mal à distinguer l'aspect stratégique de la chose. Et donc, le temps s'est un peu écoulé. Et c'est là, en fait, où on va en venir, c'est que tout ça a pris énormément de temps. Il a fallu un certain nombre de ruptures, des ruptures assez fortes et nettes, qui ont passablement étonné les uns et les autres, en disant, tiens, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ci, pourquoi ça? Mais on a aujourd'hui, on est tous contents de voir cette convergence.
Et donc, du coup, ben, aujourd'hui, on va arriver avec une vision ben, un petit peu plus grande maintenant sur ben, une interface unique. Mitch vous en a parlé hein, en termes de design. Une interface unique qu'on va retrouver en fait du PC de bureau traditionnel avec des écrans, je dirais des écrans haute définition en 82 pouces. On l'a vu d'ailleurs sur même plus grand sur la table. Hein, Jean Ferré, vous avez fait une démonstration, jusqu'aux tablettes. En passant naturellement aussi par le phone. Mais ce qu'il faut bien voir avec Windows 8, parce que là je vais vous parler de Windows 8, c'est véritablement en fait la stratégie de Microsoft, c'est du PC aux tablettes. À la différence de nos concurrents aujourd'hui qui sont plutôt passés du smartphone aux tablettes. Après, à eux de passer du tablette peut-être au autre chose, un Mac, quelque chose comme ça. D'accord? Et cette interface unique, en fait, elle a fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui parce que. Mais où est passé mon menu démarrer? Il est passé où mon menu démarrer? C'est vrai. Ben, on
Eh
peut se
oui.
poser la question. Ben,
Oui,
le
clairement.
menu démarrer a complètement disparu. Mais rappelez-vous, quand on est passé de DOS à Windows, ben, c'est pareil, tu l'évoquais en introduction. Je me retrouve avec une souris qui est gérée, parce qu'en DOS, il fallait la gérer soi-même, hein, la souris, hein, en tant que développeur. Interruption? Non, tu sais plutôt. Et puis il y a eu donc Windows 1, Windows 2, Windows 3, et puis après il y a eu Windows 95, avec ce fameux menu démarrer, hein, Start Me Up. Hein, alors, démarrer pour arrêter, c'est vrai que ça fait un peu sourire aujourd'hui. Mais du coup, c'était une révolution. Et on se posait la question, ah, mais moi je ne retrouve pas mes petits. Bah, aujourd'hui, dans Windows 8, c'est un petit peu la même chose. C'est juste une question d'habitude. Et puis, bah, on va retrouver ces petits. Tiens, d'ailleurs, je voudrais vous montrer.
T'as pas
Ouais,
fini de
je vais vous
montrer là?
montrer le. Si, je vais montrer un petit truc.
Allez, vas-y, hop.
Rappelez-vous. Alors, c'est peut-être pas pour les plus anciens, mais ouais, vous voyez bien là. Donc, je suis dans une machine virtuelle. Ici, vous avez Windows 1.0. Ou 1.03 exactement. Bon, ok. Il y a un truc qu'on retrouve, c'est les icônes à plat qu'on a fait dans Windows 8. D'accord? Ça, c'est Windows 1.0. Vous vous rendez compte si on était resté à ça? On nous aurait dit, ouais, Microsoft n'innove pas, etc. Mais quand on innove, on nous dit, ouais, mais il est où mon menu démarrer? Alors, après, on a évolué. Alors, je peux vous montrer, hein, par exemple, le contrôle panel. Le contrôle panel, j'en ai du setup là-dedans. Vous voyez, bon, des petites choses comme ça. Après, on a évolué sur... hop, elle est où ma souris? On va la reprendre. Sur Windows. Donc, Windows, c'est Windows 3.0, 3.1, 3.1, ouais. C'est toujours basé sur DOS. Donc là, j'ai une machine virtuelle dans DOS. Et puis, bah, pour démarrer Windows, alors soit j'avais un autoexec.bat et ça redémarrait Windows hein, automatiquement, soit je tapais Win. Et là, ça démarre Windows 3.1. Bon, voilà. On évolue petit à petit. Ah, c'est vrai que c'est un petit peu plus sympa. Bon, les résolutions de l'époque, ce n'étaient pas des résolutions qui étaient gérées.
Mais alors, d'accord, mais on n'a toujours pas de menu démarrer là.
On n'a toujours pas de menu numérique. Par contre, d'accord. Désolé, je n'ai pas fait de Windows 95, je n'ai pas fait de machine virtuelle Windows 95, mais c'est vrai, on évolue sur, oui. Sur Windows 95
et donc, avec le menu numérique. Démarrer...
Mais on voit, bah, il a disparu, je vais vous le montrer.
Ah.
Le fameux menu démarrer, je vais vous le montrer. Revenons donc maintenant sur Windows 8. Donc là, je suis sur Windows 8 et vous voyez, ça ressemble à du Windows 7, hein, on est d'accord, sauf que le menu démarrer n'est pas là. Alors, comme on est entre geeks, je vais vous donner une commande. Hein, pour pouvoir justement accéder rapidement et éviter d'aller ici, dans ce fameux menu démarrer. Donc je vais faire, hop, je vais revenir sur D. Je suis ici et je veux activer en fait ou accéder à des propriétés de ma machine. Je vais faire Windows X. Et là, automatiquement, je peux aller bah, directement sur le Task Manager, le panneau de configuration, etc. Donc c'est un raccourci. Et vous allez voir, c'est vrai que moi j'ai les deux à la maison. Quand on repasse de Windows 8 à Windows 7, ben, on prend des automatismes hein, qu'on acquiert de toute façon avec la pratique, qu'on acquiert avec le temps. Et c'est difficile de revenir en Windows 7. Donc ce fameux menu démarrer, ben, maintenant c'est une page de démarrage. Donc elle est fournie de cette manière-là.
En fait, on retrouve un peu les mêmes choses. Parce que alors, là,
on va retrouver effectivement...
Oui, on peut je trouve qu'elle me pousse un peu de contenu, c'est toujours sympa.
Alors, elle pousse du contenu, mais ça on le verra.
Et ça pour les développeurs, ça va être super intéressant.
Ça, c'est intéressant. Mais on le verra un petit peu plus tard. On peut avoir sur un bordel, hein, naturellement, si on veut, je peux avoir des liens.
Ah oui, on peut avoir le même bazar que
ah, je peux avoir le même bazar si je vais un peu ah, plus vers la droite. Là, je vais, Mais surtout, ce menu de démarrer, il a été conçu pour prendre un peu plus d'espace, quoi, cette page de démarrage. Parce que c'est vrai que le menu démarrer, tout compte fait, si on regarde bien, il devenait un petit peu étriqué dans son coin, hein, une seule colonne. Et je faisais de plus en plus de choses, en fait, avec ce menu démarrer. Donc du coup, bah, il a bien fallu évoluer. Et maintenant, si je recherche, par exemple, une application, ben, je vais taper tout simplement Visual Studio et terminé, je charge Visual Studio. Ouais, du coup, je vais pouvoir retrouver facilement en fait mes informations. Ou sinon, je vais faire une recherche et là, ben, je vais pouvoir rechercher alors dans les applications. Par exemple, on va taper Visual Studio. Je vais avoir donc un ordre. Je vais pouvoir faire ce qu'on appelle du zoom sémantique au niveau de mon menu démarrer. Comme ça, je vais pouvoir réorganiser en fait cette page de démarrage pour accéder plus rapidement en fait à,
bon,
à la
fin. En fait, ce qu'on peut dire pour conclure un petit peu là-dessus, c'est que il y a eu une évolution, une énième évolution, comme on en a connu depuis les 20 ou 25 dernières années, avec à chaque fois, c'est vrai, quelques ruptures un peu plus importantes que les autres, mais finalement qui, avec l'histoire, quand on regarde un petit peu derrière nous, se sont plutôt bien passées et surtout ont permis à l'industrie de saisir des opportunités. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que comme tout changement, ça peut amener certaines craintes, à la fois pour l'utilisateur de dire « mais j'étais habitué à quelque chose, comment je fais pour passer à cette nouveauté, comment je fais pour l'absorber ?» Et pour le développeur aussi d'application, c'est-à-dire bah, « voilà, avant je créais des applications avec telle ou telle techno, aujourd'hui je suis face à un nouvel univers, je dois embrasser de nouvelles technologies, les apprendre, mais aussi exploiter de nouvelles possibilités. » Et en fait, l'histoire nous montre que ce ne sont que des opportunités plus que des contraintes. Ceux qui ont absorbé ces changements s'en sont rendus plus forts, et ceux qui ne l'ont pas fait ne sont probablement pas là pour en parler aujourd'hui, en tout cas pas d'un point de vue business.
Alors aujourd'hui, cette convergence, bah, elle se symbolise par quoi? On a Windows 8 et on va avoir Windows Phone 8. On y est là, hein, sur la convergence. Il faut savoir que Windows Phone 8, et on reviendra un tout petit peu plus en détail tout à l'heure, bah, a le même noyau que Windows 8. Ça, c'est quelque chose
d'unification. Voilà. Donc là, on le retrouve alors dans notre grande stratégie.
On va le retrouver dans notre...
C'est vrai que là-dessus, bon, c'est un tout petit peu trompé parce que, en fait, c'est une multiplicité d'écrans. toutes les tailles, tous les form factors. Ça va beaucoup plus loin que la télé avec l'écran interactif qu'on peut avoir dans son bureau de 82 pouces. Hein. On voit Bill Gates ou Steve Ballmer nous vanter les mérites de ces écrans géants super chouettes qu'on aimerait tous avoir. Ça peut aller vers la tablette de salon, le all-in-one aussi qui marche très très bien. Donc ces fameux PC qui sont tactiles, qui peuvent même se remettre à plat et du coup s'utiliser comme une table, un petit peu comme la Surface première du nom, et qui surtout deviennent intéressantes parce qu'elles sont tout à fait abordables. De ce fait, voilà, il y a quand même 7 multiplicités d'écran, et pour le coup, le nuage, on l'a, c'est Windows Azure, il est là, donc là on en comprend la signification. Il est là pour alimenter les applications en contenu, notamment, et pour faciliter le passage d'un device à un autre. Donc ça prend tout son sens. Et puis, un mot sur le développement, le Visual Studio, qui est quand même l'outil par excellence, qui a unifié toutes les expériences de développement. Aujourd'hui, on ne se pose plus la question de savoir est-ce que je vais dans tel outil pour créer telle app ou dans tel autre pour créer une autre app sur notre techno. On est dans le visuel, on reste dedans, et du coup, tout ce que l'on apprend peut être réutilisé d'une techno à l'autre. Et là, c'est intéressant. Alors, quelques chiffres rapidement pour qu'on prenne conscience un petit peu de l'ampleur du phénomène. Ce sont des chiffres, il n'y a pas de breaking news ici, je ne vous fais pas une annonce extraordinaire, mais on va essayer de mettre ça en perspective. 1,3 milliard de PC. Ça commence à faire quand même, parce qu'on nous parle par ici, par là, oui, tel téléphone s'est vendu à 10, 20, 30 millions, 50 millions, 100 millions, ok, et puis telle tablette, et ainsi de suite. Là, on parle de 1,3 milliard de PC. Donc ça veut dire que le marché n'est pas exactement le même. Et ça veut dire aussi que les opportunités ne sont pas exactement les mêmes. À noter que sur ce marché, force est de reconnaître que tout le monde n'est pas totalement à la page. Et sur ce marché, donc, on a 800 millions de PC qui font tourner Windows 7. Ça, c'est un indicateur très fort parce que ça veut dire que tout PC qui fait tourner Windows 7 peut faire tourner Windows 8 et donc est une opportunité pour ensuite étendre le marché des applications Windows 8. Donc voilà, part de marché que vous avez probablement tous un petit peu en tête. Et ça, c'est extrêmement intéressant de voir que Windows 8. Alors là, ce sont des chiffres hein, qui se sont arrêtés début janvier, c'est-à-dire en 2 mois, 2 mois de lancement, hein, c'est novembre-décembre, en gros, on était arrivé à 60 millions. C'était l'objectif, parce que l'objectif, c'était d'essayer de recoller au succès de Windows 7, qui a été un hit exceptionnel, donc c'est jamais évident de venir derrière un super hit. Et là, en l'occurrence, Paris, pour l'instant, réussit. Donc, il y a peut-être d'autres chiffres qui vont tomber, mais ça, c'est les chiffres je crois que c'est début janvier, 7-8 ou un truc comme ça. Bon. Là, c'est hyper intéressant, notamment pour la partie téléphone, puisqu'on va pouvoir surfer sur l'adoption de Windows pour amener aussi le téléphone. Et c'est là où l'histoire va être intéressante, c'est qu'une fois qu'on aura fait l'un, on peut imaginer faire l'autre assez facilement et du coup créer
On est
un
des vrais
écosystème.
challengers là sur le coup, pour le coup.
Alors, pour avoir cette expérience complète, oui, ouais, ça c'est pas mal.
Alors,
Un petit mot
venons
sur
un
le
petit
nouveau
peu
Windows.
à Windows, parce que quand c'est vrai qu'en marketing, ils disent qu'on a réimaginé Windows, mais on va voir qu'on a réimaginé Windows aussi pour, je dirais, pour les développeurs, hein, parce qu'il y a pas mal de choses à appréhender. Et la première chose qu'il faut bien garder en tête, c'est que tout ce qui tournait en fait, et tout ce qui tourne dans Windows 7, tourne dans Windows 8. Donc ça, on vous garantit que vos applications que vous avez développées, de bureau traditionnel, hein, en entreprise, elles vont tourner sur Windows 8. Après, il y a énormément de choses qui ont été rajoutées sur Windows 8. On a travaillé énormément aussi sur, je dirais, le microkernel, parce qu'il ne faut pas oublier que ce Windows 8 doit aussi s'adapter à des périphériques qui ont des consommations relativement légères ou des ressources légères. Je parle par exemple sur les fameuses tablettes à base de processeurs ARM. Alors le marketing a décidé d'appeler ça Windows RT. Ça, voilà, c'est donc si vous voulez acheter un Windows 8 sur tablette x86, donc sur des processeurs Intel ou AMD, il faut bien parler de Windows 8. Sur ARM, c'est Windows RT. Mais le noyau est le même. Quand moi je vais développer dans mon langage préféré, par exemple, je vais cibler naturellement cette plateforme. Donc on a beaucoup travaillé sur le kernel justement pour consommer de moins en moins, pour utiliser les ressources à bon escient. Puis il y a d'autres choses qui sont sorties sur Windows 8, comme par exemple le Windows To Go, qui est assez intéressant. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de Windows To Go? Ah, quelques-uns. Le Windows To Go, c'est la possibilité de dire, je vais, à partir d'un Windows 8, créer sur une clé USB, alors certifiée ou pas, mais surtout certifiée aujourd'hui, carrément mon environnement de travail. Donc je suis au bureau, je crée cet environnement de travail avec mes applis, ma virtualisation, ma sécurité, etc. etc. Et je peux aller sur n'importe quel PC à la maison, reconnecter en fait cette clé USB, booter sur la clé USB et je me retrouve dans mon environnement de travail. Donc ça plaît très bien, ça plaît beaucoup à un certain nombre de personnes qui n'avaient pas forcément envie de transporter quelque chose de lourd, même si c'est de plus en plus léger, dans son sac. Donc ça, c'est assez intéressant. Vas-y. Alors Windows 8, qu'est-ce que c'est? C'est un certain nombre de principes que vous voyez là et que je redétaillerai en fait dans une session propre à l'introduction au développement en XAML. Ces principes, ils sont là. Une expérience utilisateur fast and fluid. C'est vrai, on vous en a parlé en fait en plénière, il faut que les applications soient, je dirais, de plus en plus alléchantes. Donc on a besoin, pour ce faire, de rajouter un peu d'artifice, d'animation, donc de fluidité, pour que justement elle soit agréable non seulement à utiliser, mais également à regarder. Et puis le fast, on en reparlera dans cette session justement. Le fast, c'est à partir du moment où on commence à avoir du tactile, l'utilisateur, lui, n'a plus envie d'attendre les 3 secondes. Si jamais il y a quelque chose qui ne se passe pas, il veut pouvoir justement arrêter l'application à n'importe quel moment. Ça, c'est extrêmement important parce que quand on dit réimaginer Windows 8, c'est aussi réimaginer la manière dont on va pouvoir développer ce type d'application. Sachez que toutes les API qui seront fournies sont dites asynchrones. Donc il va falloir garder ça à l'esprit. Et l'asynchronisme est quand même assez intéressant à utiliser sur des PC qui, ou des tablettes qui aujourd'hui ont 2, 4, voire 8 processeurs. Quand on dit immersif et plein écran, bah c'est vrai. Hein, vous voyez que toutes les applications Windows 8 aujourd'hui, on va éviter de venir la polluer avec un certain nombre d'actions à l'intérieur de l'application. C'est-à-dire qu'on verra très peu de boutons de commande. On ne verra pas de cadre hein, qui justement encadre l'application. On ne ferme pas avec une croix en haut à droite. Hein, on va fermer avec une gestuelle. Hein, on pourra le montrer tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'on veut prioriser plutôt au contenu qu'au contenant. Ça, c'est important. On dit que le tactile est citoyen de premier ordre. C'est vrai qu'on a prévu, en fait, sur Windows 8, et on a développé Windows 8 en gardant à l'esprit que c'était plutôt sur des tablettes aujourd'hui. Mais ça s'utilise très très bien sur des PC qui ne sont absolument pas tactiles. Hein. Donc sur des souris et sur des et avec des claviers. C'est juste une question après d'habitude. On a réservé, hein, pour techniquement, on a réservé un petit pixel autour de l'écran, en fait, pour justement détecter cette fameuse gestuelle. Et le petit pixel qui était assez dur à trouver sur la grosse table, je ne sais pas si vous avez vu la démo de mon boss, où il avait du mal parce qu'il y a une épaisseur comme ça entre l'écran, en fait, et le haut le verre et l'écran. Donc c'était assez compliqué, il fallait vraiment trouver le bon compromis. Tu parlais de cloud, d'Azure. Oui, les applications peuvent être, ou pas, hein, naturellement, connectées au cloud. Ce qu'il faut savoir, c'est que Windows 8 fournit toute l'infrastructure pour pouvoir synchroniser, et ça sans le moindre frais, pouvoir synchroniser les données de votre application, par exemple des paramètres, avec le cloud. Et ça, bah c'est automatique. Ça se fait automatiquement pour peu que votre PC, en fait, fasse partie d'un espèce de petit réseau. Il y a 4 ou 5 machines qui sont trustées en fait sur le cloud, mais ça se fait automatiquement. Et pour peu que vous vous loguez avec un compte Microsoft qu'on obtient sur Live ID, Hotmail, etc., etc. Et ça se fait automatiquement. Et puis pas de compromis naturellement pour une expérience sur les différents périphériques. Quand on dit réimaginer Windows, c'est effectivement réimaginer la manière dont les développeurs vont prévoir ou concevoir leur application sur différents types de résolutions, sur différents types de tablettes, différentes grandeurs en fait d'écran. Donc ça, c'est hyper important. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, les outils vous facilitent ce passage. Ouais, vas-y, tu peux y aller. Alors, Les investissements principaux, ben, vous les voyez ici. On a réinvesti sur une nouvelle plateforme, donc le Windows Runtime, ce qu'on appelle la WinRT. Donc si vous n'avez pas l'habitude de manipuler les concepts de Windows, ça c'est important, WinRT. Cette plateforme-là, WinRT, est développée en C++ essentiellement. Ce n'est pas du .NET, ce n'est pas du JavaScript, il n'y a pas de web, il n'y a rien, c'est du C++. On en reparlera peut-être, j'ai une autre session qui parle de la manière dont ça fonctionne un peu tout ça, c'est demain, je crois, sur développer des composants WinRT. D'expérience utilisateur, bon, vous l'avez vu, hein, on prend de plus en plus d'importance, elle prend de plus en plus d'importance. C'est pour ça que nous, on a décidé, nous, notre groupe, l'année dernière, d'embaucher, en fait, vous voyez, le petit gars là, qui ressemble un peu à Charlie Couture, avec, là. Un designer. Et lui, honnêtement, on lui donne entre nos mains du code que nous, on a écrit, d'accord? Et il nous fait une belle application. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on remarque le plus souvent, c'est que l'application est jolie. Peu importe comment vous avez développé en dessous, du moment que l'application est jolie, bah, ça plaît tout de suite. Un environnement d'exécution, oui. Pourquoi un environnement d'exécution? Parce que les applications, elles doivent aller dans le store, donc le Windows Store. Ça, c'est une nouveauté. Pour Windows, je parle. C'est vraiment une grande nouveauté. Et comme elles vont dans le store, ben, on veut pouvoir maîtriser ce qui se passe, en fait, hein, dans cette application, et éviter que ben, des petits malins puissent injecter du code, puissent voilà, avoir accès aux ressources de la machine, etc. Donc on est dans cet environnement d'exécution, c'est une espèce de petit cocon qui vérifie ce que l'application a le droit de faire, hein, ou pas. OK? Alors, développer des applications sur Windows 8, vous avez à ma gauche du desktop. Rien ne vous empêche de développer des applications à l'ancienne, j'allais dire, pas du tout, pas du tout, mais des applications desktop. Vous pourriez par exemple développer en WPF et faire des interfaces extrêmement attrayantes pour l'utilisateur, et tout ça qui tourne sur des tablettes. On pourrait faire du C, du C++, bon, pas mal de choses. Donc ça, c'est les applications de bureau traditionnelles. Et puis, sur la gauche, bah, vous avez ces fameuses applications Windows Store, avec un certain nombre de contraintes, mais aussi avec un certain nombre de fonctionnalités qui sont assez intéressantes, qu'on ne détaillera pas ici, qu'on détaillera dans l'autre session. Mais surtout, vous venez comme vous êtes. Vous êtes développeur .NET, vous pouvez développer en .NET sur Windows 8. Ce que vous avez besoin, vous, d'apprendre, ce n'est pas le VB, ce n'est pas le C Sharp, c'est simplement ces nouvelles API, le Windows Runtime. C'est-à-dire, c'est une nouvelle plateforme. Alors, on peut naturellement, ça, cocorico, quand même, développer en C++ et aussi en XAML. Ce qui n'était pas possible avant, si je pouvais pas développer en XAML ou en WPF en C++, ce n'était pas possible. Là, le fait que XAML, ici, c'est une couche C++, bah, naturellement, ça me simplifie grandement le développement. Et puis surtout, naturellement, en C++, ce qu'on ne voit pas sur la slide, c'est qu'on va pouvoir développer aussi en DirectX et même mixer du DirectX et du XAML dans son application. Alors, je sais que DirectX est plutôt réservé à des jeux, mais ça veut dire aussi que je peux très bien, moi, développer des composants très performants qui vont tout simplement manipuler du C++ et les réutiliser dans d'autres langages. Vas-y. Je crois que c'est tout. Non. Clique dessus.
C'est une opération compliquée, hein. Cliquer, c'est un truc un peu.
Bon, et je vois que tu es.
Ah.
Voilà. Alors, ces API, elles sont là. Un certain nombre d'API. Je ne vais pas vous les détailler toutes. Mais ce qui est important, c'est de voir celles qui correspondent par exemple au périphérique, au device. On voit arriver des API qui sont plus des API qu'on a l'habitude de manipuler dans des environnements mobiles, comme sur le Windows Phone. Par exemple, je parle des sensors, je parle de la NFC, hein, comme Julie nous en a parlé tout à l'heure.
Alors
Donc là, on est.
ça c'est un symbole de convergence là.
Et voilà, c'est justement là où je voulais en venir. C'est véritablement un symbole de convergence entre les différents types de développeurs. Développeur Windows Phone, et honnêtement, c'est ce qui s'est passé, le développeur Windows Phone qui développait sur nos technologies en Silverlight, on est allé le voir et on lui a dit, est-ce que tu veux développer en Windows 8? Il s'y est fait relativement rapidement. Il a fallu qu'il, naturellement, pense à un certain nombre de choses, mais voilà, il s'y est mis assez rapidement. Et ceci est d'autant plus intéressant que ce fameux environnement d'exécution se rapproche aussi, je crois qu'on a une slide après, je finirai par celle-là.
Je ne veux pas cliquer, c'est un peu compliqué aujourd'hui.
C'est bon. On a un environnement d'exécution qui se rapproche, voilà, qui se rapproche peu ou prou de l'environnement d'exécution d'un Windows Phone mobile. Par exemple, première chose, et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est qu'une application Windows 8, quand elle est en avant-plan, pas de problème, elle focus, elle s'exécute. Par contre, quand elle vient en arrière-plan, elle est suspendue par Windows. Et ceci pour une raison très simple, c'est qu'on ne veut pas, sur des périphériques qui ont des ressources relativement limitées, on ne veut pas qu'elle, justement, elle consomme à mauvais escient ses ressources. Donc on retrouve voilà un environnement qui converge.
Là, vraiment, on voit l'impact du nomadisme qui avait été embrassé par nos appareils mobiles, à savoir une meilleure utilisation des ressources disponibles, on prend soin de la batterie. Donc du coup, on adapte complètement le modèle d'exécution. Donc on n'est plus à exécuter tous les process en parallèle et ils se font concurrence et c'est celui qui aura la plus forte priorité qui pourra prendre le maximum de ressources. Là, on est très respectueux. Et je dirais même que l'OS est garant de cela. Donc il se positionne en tant qu'ordonnanceur et dit voilà, l'application est de premier plan, je donne quasiment toutes les ressources. Lorsqu'elle est en arrière-plan, à ce moment-là, je l'endors un petit peu, voire même si je me sens contraint par un manque de ressources, je peux très bien lui demander de se terminer. À ce moment-là, je préviens l'application en lui laissant quelques secondes, en disant écoute, tu as quelques secondes pour enregistrer ce que tu veux, ensuite c'est terminé, j'ai besoin de place dans la mémoire. Donc on a ce nouveau modèle. Et ce nouveau modèle donc est vraiment... finalement adapté. Créer le lien vers le téléphone.
Alors, moi, je voudrais juste résumer. Donc, attention, encore une fois, Windows 8, vous pouvez développer les applications Windows Store, mais si vous voulez développer une application tablette en WPF, vous pouvez le faire aussi. Mais vous ne bénéficierez de ça. Voilà, hein, on est d'accord. Vous ne bénéficierez pas, en fait, de tous ces concepts et de toute cette optimisation en termes de consommation.
Et notamment de la portabilité, c'est-à-dire que là,
ce sera à vous de
ce
le
modèle-là est disponible aussi bien sur le PC tel qu'on le connaissait, donc là, avec Windows 8 et puis la partie de compatibilité avec le desktop, mais c'est disponible aussi de fait avec les PC qui tourneraient avec Windows RT, donc les versions ARM, et puis du coup les téléphones. Donc là, du coup, on touche beaucoup plus de devices avec ce nouveau modèle. Alors, du coup, transition faite avec cette espèce de jointure qui est le modèle d'exécution vers Windows Phone. Donc Windows Phone, vous savez que là aussi on a un petit historique, on vient d'un modèle qui a été d'un assemblage en fait, qui a été fait avec un coup de Windows CE pour le noyau, on rajoute un petit peu de Silverlight pour créer un modèle d'exécution, un peu de .NET, XAML, pof, et on a un truc qui est pas si mal et qui a créé en fait des bases assez intéressantes puisque on a vu une inspiration assez forte de Windows, que ce soit sur la partie design, qui avait quand même été, je dirais, dont on a vu l'avènement de ce fameux design de métro, coupé au montage, s'il vous plaît, sur le téléphone, qui s'est retrouvé ensuite sur le PC. Je l'ai dit ? Non, je ne l'ai pas dit. Et ensuite, le modèle d'exécution aussi, les technologies finalement un peu similaires, puisqu'on peut dire que Windows RT, entre autres, est un petit peu l'évolution ultime d'un Silverlight, WPF et autres. Donc on retrouve ce modèle-là, ici, donc sous le nom de Microsoft.NET, donc en code complètement managé. Donc vos applications Windows Phone 7 tourneront toujours sur Windows Phone 8. Mais aussi, il y a aussi un ensemble d'API qui ont été rajoutés. Donc le Windows Phone Runtime, notez le WinPRT, donc on retrouve vraiment un lien de paternité. Et puis aussi l'accès, et ça c'est aussi une grande nouveauté, à tout un ensemble d'API natives qui avant n'étaient pas exposées par le précédent modèle de développement et qui là sont complètement accessibles à partir du moment où on le souhaite et où on en a besoin. Alors, yes, en fait c'est la transition qui a du mal à passer. Donc du coup, voilà, une belle image, ça c'est notre image préférée, enfin en tout cas préférée du marketing, non? C'est ce qu'on dit entre nous. C'est une superbe histoire avec d'un côté le souhait d'une application Windows Phone, de l'autre du Windows. On partage le même source avec des composants en C++ ou en C#. Et puis on a des API communes aussi qui s'appuient sur un noyau commun. Bref, c'est extraordinaire.
C'est beau.
C'est ça, non?
Ouais, c'est ça.
C'est ça. Bon, là, on est entre nous ou pas?
Ouais, on est entre nous.
Ok. Donc, entre nous, on peut quand même se dire que...
Mais on est enregistré, donc attention.
Il faut faire attention quand même.
Ça
un petit peu.
Long.
Ok. Donc, entre nous, on peut quand même se dire que la convergence est quelque chose d'extrêmement ambitieux, qui prend du temps et qui aussi doit faire face à un certain nombre de contraintes. Et là, que j'illustre ici avec ce petit graphique qui reprend en fait... les API, en fait, une vue comparative entre les API de Windows Phone et de Windows. Et on voit par exemple, ici, alors l'unité de mesure, hein, quand vous voyez les chiffres, c'est un nombre de membres. On aurait pu prendre nombre de classes, nombre de lignes de code, je ne sais quoi. On a choisi le nombre de membres qui est assez finalement expressif du nombre de possibilités offertes par une API. Donc là, on voit que le Windows Runtime expose 11 000 API. Et on voit que les deux cercles se recouvrent, c'est-à-dire qu'il y a une zone ici de convergence. On voit qu'il y a 2800 membres qui sont absolument communs. Donc, ça soulève la problématique de mais alors qu'est-ce qui n'est pas commun? Il y a des choses en effet qui peuvent être spécifiques. Donc, on voit par exemple que sur Windows Phone, il y a 600 éléments qui sont complètement spécifiques, qui ont une singularité sur la plateforme Windows Phone. Alors on peut citer comme exemple certains contrôles qui s'adaptent mieux à une ergonomie du téléphone, donc qui se présentent de façon verticale avec un scroll qui peut avoir, qui est un petit peu horizontal mais pas mal vertical aussi. Donc des souhaits comme ça d'avoir des contrôles spécifiques pour ces devices-là qui se manipulent à une main voire un doigt. Et puis d'autres contrôles comme les grid view ou autres, enfin qu'on aura l'occasion de voir. Qui s'exprime mieux sur une tablette ou sur un PC. Donc c'est ce qui crée un peu ces différences. Et puis, bah, force est de constater qu'il y a aussi on est sur un chemin, la convergence c'est un chemin, ce n'est pas forcément un point d'arrivée ou une destination, c'est vraiment un chemin. Ça, l'histoire fait qu'on amène d'autres zones de convergence, on verra peut-être demain avec la télé des choses intéressantes arriver. Là, en l'occurrence, on a des éléments... Ce qui est bon à savoir pour le développeur, c'est beaucoup d'éléments communs, donc beaucoup de code réutilisable. C'est là qui va être intéressant. Il faut être pragmatique. Il y aura quelques zones de spécificité, mais la majorité sera commune. Alors, maintenant, on avait envie de rentrer un petit peu dans le concret, parce que là, on a fait beaucoup de blablabla. Donc, il va falloir qu'on montre quand même un certain nombre de choses. Et pour ce faire, on a souhaité être extrêmement pragmatique et suivre, finalement, le cycle de développement tel qu'il est réalisé concrètement par un développeur. Donc à savoir, on commence généralement par faire un peu de design. Quand je dis design, ce n'est pas uniquement du dessin, ça peut être aussi un peu de conception. Ensuite, généralement, on va coder. Et puis là, se pose la question de comment je code, avec quoi, etc. Et puis après, on va essayer de rajouter un peu de qualité. Il y en a bien deux, trois qui font un peu de qualité. Vous verrez que c'est assez nécessaire. Et puis finalement, une fois qu'on a un super produit, on va vouloir le mettre à disposition des clients, et donc par exemple sur le store et autres. Donc on a repris un petit peu ces éléments-là. Donc là, pour la partie design, alors je ne vais pas vous faire un cours sur le design, mais on va faire assez rapidement, on va passer assez rapidement un certain nombre de points. Donc on a des principes identiques. Donc en design, ce qu'on définit comme principe, c'est vraiment les grands éléments, ce qui régit le design. Exemple, là je vous les ai mis en anglais parce que je trouve que ça percute quand même carrément plus en anglais. Donc l'attention portée au détail. Vous avez remarqué que sur les applications Windows Phone, on tient à ce que tout soit parfaitement aligné. C'est ce qui fait qu'on arrive à lire l'écran. On n'a pas besoin de traits, de cadres et de choses pour enjoliver autre que l'alignement, la police, quelques éléments graphiques, et en fait on arrive à quelque chose de très lisible, très clair et complètement accessible. On se focalise sur le contenu plus que sur le contenant. Faire plus avec moins. Donc on enlève les bords de fenêtres, on enlève les effets 3D, on enlève tout ça et on va à l'essentiel. Fast and fluid, Eric en a parlé. L'avènement de l'interaction naturelle, donc le touch, par exemple, fait en sorte qu'on a absolument besoin d'avoir quelque chose de très réactif, de très vivant. Donc, on a des écrans qui sont sobres, plutôt à plat, très faciles à lire, à prendre en main. Et puis, dès qu'on veut interagir, on va avoir de l'animation, on va montrer du mouvement. Et de ce fait, c'est ce que l'on nomme le fast and fluid. Et ça, du coup, il va falloir faire en sorte de réussir à le prendre en main quand on est développeur. La partie authentique, donc on se veut authentiquement digital. On n'essaie pas de ressembler à des éléments du commun, du passé, des habitudes et autres. C'est bon. Je pense que maintenant, vous êtes tous au courant qu'un PC, c'est un appareil digital, que vous ne pouvez pas faire en sorte d'avoir, et surtout avec l'interaction naturelle, que votre écran ressemble à de la moquette ou à je ne sais quoi. Donc, n'essayons pas de biaiser. Si vous mettez un fond en bois, vous n'aurez jamais le toucher d'un parquet. Désolé, Eric. Et si sur ton agenda, tu as un look façon cuir, désolé, tu n'auras pas cette sensation très agréable du cuir que tu pourras avoir avec un agenda physique. Donc, on est absolument digital. Et puis le Win as One, qui est le fait d'avoir la même expérience partout et d'utiliser les forces de l'une pour promouvoir l'autre. Vous avez une application sur Windows Phone 8, il serait intéressant d'avoir sur Windows 8 et les déclinaisons pour retrouver cette expérience et montrer que tout ça est assez fort. Ensuite, il y a le langage, c'est-à-dire qu'on manipule. Couper. On a les éléments qu'on manipule. Là, on peut avoir quelques différences, donc j'en parlais. Ça se retrouve dans les API et ça se retrouve aussi dans le design. Avec d'un côté, on va avoir une barre, c'est la barre que l'on appelle sur le côté qui fait afficher le menu démarrer. On va avoir d'un autre côté, par exemple, le pivot, qui est un élément qui sert à présenter des informations très pratiques sur les petits écrans qui se manipulent à un pouce. Bref, quelques éléments de différence qu'il faudra prendre en compte dans le design. Et puis, côté outillage. Et là, je vais me permettre de vous montrer quelques petites choses. On va voir des choses assez intéressantes. Donc, pour la partie vraiment outillage, on a la possibilité de créer des maquettes avec PowerPoint. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette possibilité-là, qui est assez méconnue, mais extrêmement pratique. On peut monter d'un cran, je vais vous le montrer, hein, et ça, on peut monter d'un cran donc avec des éléments graphiques qui vous sont fournis pour utiliser, par exemple, dans un Photoshop ou Adobe Illustrator pour concevoir des maquettes de vos applications. Et puis, enfin, on a Blend pour Visual Studio, qui est l'outil de conception pour les designers, qui crée le lien, en fait, entre le designer et le développeur. Donc, je vais essayer de vous montrer un petit peu ça, pour se changer un peu les idées.
J'aimerais faire vite.
Bien que tu t'en ailles. Allez, attends. Voilà. Donc, allez, je vais m'asseoir pour être mieux. Premièrement, cette notion de storyboard. Donc, dans PowerPoint, je vais pouvoir, alors je vais vous le faire assez rapidement, hein, vous montrer qu'on peut maqueter, on peut transformer une idée en quelque chose qui ressemble un peu plus à la réalité avec un outil comme celui-ci. Donc là, je pars d'un PowerPoint tout à fait classique. Il se trouve que j'ai installé Visual Studio version Premium Minimum. Je retrouve un onglet supplémentaire ici, qui est le storyboard, qui va me permettre de faire un certain nombre de choses. Par exemple, ici, je vais décider de partir d'une feuille blanche. J'ai la possibilité d'afficher un certain nombre de formes que je vais pouvoir utiliser pour maqueter mon application. Donc les voici. Ceci peut être étendu, c'est-à-dire que je peux aller sur une marketplace, aller chercher des éléments qui vont me servir à concevoir mes applications. Et là, par exemple, je peux très bien dire, tiens, et si je mettais un start screen ? Voilà à quoi ça pourrait ressembler. Et puis, si sur ce start screen, je faisais en sorte d'avoir, par exemple, une icône qui puisse réagir, qui puisse faire quelque chose. Donc là, je pourrais dire, par exemple, je vais dans format ici, et puis je vais faire... Hop. Allez, je vais aller chercher une image. Qu'elle soit, je prends ce type sympathique. Voilà, on va dire que c'est l'icône de mon application. Et puis, cette icône d'application, j'aurais bien envie, finalement, qu'elle réagisse. Alors, par exemple, je vais créer une autre page avec, cette fois-ci, par exemple, un web browser. Hop, voilà. Je dis, bah tiens, c'est un raccourci qui me lance un web browser vers mon site web. Bien, je peux revenir sur mon bouton, lui demander d'effectuer une action et directement d'aller sur la slide numéro 2 qui m'affiche mon fameux browser. Et donc je crée en fait une présentation PowerPoint, c'est vrai, je m'appuie sur cet outil, mais je le crée avec des éléments qui représentent mon application, qui me permettent, au-delà du design, de commencer à créer de l'interactivité. Ensuite, lorsque je vais exécuter cette présentation, voilà, donc elle est complètement interactive. Donc lorsque je vais aller, vous ne voyez pas mon curseur, d'accord? C'est pas grave, je clique là sur mon icône, automatiquement, il me lance ce browser. Et donc, je peux créer des zones interactives, je peux complètement monter mes écrans. J'ai à ma disposition, me voici de retour, j'ai à ma disposition tout un tas d'éléments ici, spécifiques aux plateformes. Donc, par exemple, j'ai des grilles, des listes, etc. Tous les contrôles qu'on retrouverait en conception. Je pourrais très bien dire, bah voilà, il se trouve que ici, je vais afficher un chart sur cette page-là. Et voilà, et commencer à concevoir mon application, à la faire valider en interne et faire en sorte de progresser. Donc zéro code, mais déjà une très bonne idée de ce que je pourrais obtenir. Ensuite, autre outil qui va être intéressant, c'est Blend. Vite, c'est ça, hein. Donc Blend, c'est l'outil qui crée le lien entre le designer et le développeur. Donc il faut d'avoir une petite connaissance technique, mais finalement, quand on est habitué à des outils type Flash et autres, on se retrouve totalement à l'aise. D'ailleurs, on retrouve un peu un design qui a été conçu pour les designers. Donc là, je vais être capable d'ouvrir un projet d'application type Visual Studio. Donc je vais retrouver les différents éléments de ce projet. Ça va charger. Et ensuite, je vais avoir une vue des éléments visuels de cette application. Donc regardez, là je manipule mes contrôles. Ces contrôles sont alimentés par des données d'applicatif déjà. Donc je peux déjà comme ça concevoir mon application. Ici j'ai une liste de contrôles, donc assez classique. Et puis je peux modifier les styles, faire tout ce que je veux. Je peux ici aller voir ce qui se passe dans mon projet. Donc j'ai ici un projet Windows 8 que vous voyez ici. Mais je peux aussi, dans le même outil, donc sans changer d'outil, aller voir ce que ça donne côté Windows Phone cette fois-ci. Et je peux donc, en tant que designer, finalement interagir avec l'application, les concevoir, les enrichir, que ce soit avant la conception de l'application par le développeur, ou que ce soit pendant le cycle, en parallèle avec le développement. Donc là, par exemple, je vais ici, juste vous montrer que j'ai une notion de pivot dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec différents items dans ce pivot. Donc, c'est des éléments dans lesquels je vais présenter l'information. J'ai une liste. Et puis, cette liste, j'aimerais, par exemple, faire en sorte, donc voici la liste, d'afficher un élément, par exemple, le titre de la piste, j'aimerais l'afficher un petit peu plus gros. Donc, pour ça, je vais pouvoir designer, le template à proprement parler. Là, on m'affiche la conception même d'un élément de cette liste. Et puis, si je sélectionne cet élément, eh bien, je vais pouvoir changer son style, me dire bah voilà quels sont les éléments qu'il compose. Exemple, par exemple, mettre un petit peu de gras pour essayer de gérer la hiérarchie d'informations et rendre la chose plus claire. Alors, ce qui est intéressant, si je pourrais vous montrer aussi que cet élément-là, il est lié, et c'est là où on va faire le lien avec ce qui se passe derrière. C'est qu'il est lié avec une notion qu'on appelle le binding, c'est-à-dire la mise en relation, le lien entre deux univers. Là, je retrouve les éléments mis à disposition par le développeur, qu'Eric va nous montrer tout à l'heure, dans lequel j'ai une notion de playlist et je vois un certain nombre de propriétés auxquelles je vais pouvoir me coller en tant que designer et que je vais pouvoir utiliser. Donc, le développeur, d'un côté, enrichit son modèle de données. Et moi, de l'autre côté, je conçois la partie visuelle. Et nous travaillons ensemble sur le même projet. Et ça, c'est une grande force de cet outil-là. Voilà un petit peu pour cette partie design. Si, alors, une chose, hop, je vais revenir au bon endroit. Voilà, hop, hop, c'est ici que je voulais venir. Si vous voulez en savoir plus, là on a des sessions qui sont super intéressantes sur la partie design. Je vous invite à voir l'ensemble ou une ou deux de ces sessions. La première, le skeuomorphisme, vous savez tout ce que c'est bien sûr. Hein, vous en avez peut-être entendu parler, donc c'est le souhait pour le designer de reprendre des éléments de la vie de tous les jours, des éléments physiques, des éléments existants dans la vie de tous les jours, de les reprendre dans l'expérience digitale. Et donc on va voir les limites de cela, puisque c'est clairement pas dans ce mouvement que Microsoft s'inscrit. On peut voir aussi le making of, ça c'est hyper important, d'avoir du retour des applications existantes, celles que vous avez dans le store, voir un petit peu comment elles sont conçues. Et puis on continue avec des différents retours. Et puis notamment une des grandes questions, c'est ok, c'est super votre design. Vous me demandez de tout aligner, vous me demandez d'enlever tout ce qui est fioritures et autres, mais comment mon identité d'entreprise peut transparaître dans mon application Windows? Comment je fais pour exister? Eh bien vous verrez qu'en fait, ce modèle de design transcende l'image de votre entreprise. Oh, bah écoute, très bien. Je pense que c'est une très très bonne idée de me demander de faire ça maintenant. Alors, un petit peu de code?
Allez, on va passer à la réalisation de code. Parce qu'on vous parle de convergence jusqu'à présent, mais comment on va pouvoir justement essayer de se partager un certain nombre de bouts de code? Alors, ici, on vous met un modèle de développement qui est celui-là, qui est le modèle MVVM. Ce n'est pas un modèle qui est obligatoire, on n'est pas obligé de l'utiliser. Simplement, ce qui est très intéressant, c'est qu'il permet de découpler en fait un certain nombre de tâches, et comme ça, ça va nous permettre, à nous, développeurs, de se dire bah, qu'est-ce qui est spécifique à la plateforme. Bah, tu en as très bien, tu l'as mentionné en fait, Alex. C'est les vues, donc c'est tout ce qui est affichage. Je sais que ça, c'est spécifique à la plateforme, donc c'est quelque chose que je ne vais pas pouvoir forcément partager, à part peut-être avec deux, trois petites astuces. Je vais utiliser en fait un view model. Ce view model, c'est lui qui va en fait faire la liaison avec mon modèle de données. Et la bonne nouvelle, c'est que, je dirais, ces deux couches-là, ben on peut les utiliser. On peut partager le code et on va utiliser pour ceci, tu peux passer là. On va utiliser pour ceci un modèle de développement qui est disponible en fait dans Visual Studio qui s'appelle le Portable Class Library. Ce modèle de développement va vous permettre de choisir quelle est la cible en fait de mon OS. Donc je vais pouvoir choisir par exemple uniquement Windows 8 et Windows Phone 8. Et comme ça après vous allez pouvoir vous coder et ne jamais utiliser des caractéristiques propres qui ne soient pas dans les deux plateformes. Alors, je vous ai parlé de Windows 8 ou Windows Phone 8, mais il y a aussi Silverlight, Windows Phone 7, il y a pas mal de choses. Et du coup, ça se caractérise par quoi? Et on va faire vite, parce qu'on est déjà à la bourre, comme d'habitude. Ici, j'ai un projet, tout le monde voit bien. J'ai donc un projet, une solution Visual Studio, où j'ai un projet Windows 8 et un projet Windows Phone 8. Ce que je veux, moi, c'est essayer de vous illustrer ce que je vous ai montré dans la slide. Donc du coup, j'ai créé, plutôt Alex d'ailleurs, a créé une portable librairie. Dans cette portable librairie, je vais retrouver un certain nombre de choses. Par exemple, mes modèles qui vont gérer des albums, où je vais charger en fait ces modèles. C'est view model, pardon. J'ai des modèles qui me gèrent mes albums. Donc ça, je dirais, c'est les données brutes qui arriveraient justement de votre service de données, que ce soit une base de données, que ce soit un service web qui arrive, etc., etc. Je vais les alimenter avec un service, justement. Ce service, il est là. C'est lui qui charge, par exemple ici, à partir d'une requête HTTP, donc tu as rapatrié les images Deezer, qui charge les données. Je vais donc moi alimenter le modèle, plutôt je vais alimenter le view model avec le modèle de données, ça c'est une chose. Et puis derrière, il va falloir que je les affiche. Ben, je vais les afficher dans une vue bien particulière, et ça c'est mon view model qui va faire la liaison avec cette vue. Maintenant, je peux avoir certaines spécificités propres en fait à la plateforme. Donc du coup, j'ai ici une interface. Rappelez-vous ce que je disais en plénière, une interface c'est une coquille vide qui décrit simplement ce qu'elle sait faire. Et cette interface, ben, je vais pouvoir la réutiliser dans un outil propre à Windows 8, donc en dérivant tout simplement de cette interface. Et de la même manière, je vais pouvoir la dériver directement dans mon application Windows Phone 8 et utiliser les spécificités propres en fait à Windows Phone 8. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma Portable Library, elle, ne fera la liaison qu'avec l'interface et jamais avec une implémentation propre. Donc je découple comme ça en fait les deux composants. Ensuite, il suffit d'exécuter et c'est parti, roule ma poule. On va revenir, parce que comme on est à la bourre. Donc là, on ne rentre pas trop dans le détail, parce que, vas-y, tu peux passer, parce que vous avez des sessions où là, ils vont véritablement hein, vous décortiquer tout ça. Donc, il y a Arnaud Auroux et Étienne Margrave qui vont justement vous parler de ça dans la session APP 223, si vous êtes véritablement intéressé pour aller beaucoup plus loin dans cette démarche.
Ensuite, vraiment une vue très rapide, hein. De toute façon,
Trois
on est
minutes.
bientôt à la fin, sur la partie qualité. Alors là, c'est un point sur lequel j'insisterai, parce que c'est vrai qu'on a pris un petit peu l'habitude du développement rapide, et puis on s'était dit que bah, finalement, une fois qu'on arrivait à compiler, ça y est, on avait une application, c'était super chouette. Mais en fait, si vous voulez vraiment construire une application, il va manquer une étape cruciale qui est la partie qualité à proprement parler. Et voir donc parmi ces outils, ceux disponibles pour le développeur, c'est qu'on n'a pas toujours un testeur, mais on a en tout cas la possibilité soi-même de pousser et de monter le niveau de qualité de son application, avec notamment les tests unitaires. Je vais vous le montrer rapidement. C'est très important, puisqu'à partir du moment où vous voulez vous présenter sur un store, vous avez une vision qui peut être nationale, voire mondiale, et vous aurez un système de notation. Et alors là, c'est beaucoup plus compliqué de gérer une notation indépendante, visible par tous, que de gérer un ou deux clients de proximité. Il y a quelqu'un qui a un petit qui râle, hop, on va lui débugger le truc sur un coin de bureau, on lui redéploie l'exe à peine compilé, et puis on attendra jusqu'à la prochaine fois. Maintenant, on est dans un autre monde, et de ce fait, il faut faire attention à augmenter le niveau de qualité. Donc comment ça se passe? Vous allez voir, c'est une expérience entièrement intégrée. Donc quand je vais dans le Visual Studio, ici, alors hop, je change cette fenêtre. Je vais retrouver parmi mes solutions. Donc Eric vous a montré la Portable Class Library, vous a montré, merci de me dire que la résolution va bien, l'application Windows 8, l'application Windows Phone. Moi j'ai rajouté aussi une solution de test, qui est une solution qui pourrait ressembler à n'importe quelle autre, qui comporte du code tel que vous savez l'écrire, c'est-à-dire c'est aussi du C#. Et en fait, je vais simplement rajouter une référence sur le code que je vais tester, en disant, tiens, en fait, c'est ça que je vais manipuler. Donc, c'est ma librairie, ma Portable Class Library. Je vais lui dire ensuite, bah, écoute, j'aimerais faire quelques tests. Bah, là, j'ai pris un test assez bidon pour qu'on puisse rapidement se comprendre. C'est du code comme ce que vous avez vu, des classes, des méthodes. Je rajoute quelques attributs. Ici, je dis, au fait, cette classe-là, c'est une classe de test. J'ai rajouté une méthode ici, qui fait un test qu'Eric vous décrira, passionnant. Pour les adeptes des mathématiques des doubles,
Ah,
vous aurez
question, est-ce
les
que ça
doigts.
donne le bon résultat en fait? Ah. Est-ce que c'est égal?
Des fans de code, non? Bon.
Pas évident, hein.
Pas évident, hein? Bon, allez, vous le ferez. De toute façon, on mettra à disposition les projets, vous amuserez avec ça. Dans le fait, on peut aussi catégoriser ces tests pour les organiser, on peut définir des honneurs pour ensuite classer en disant tiens, en fait, ce test n'a pas marché, je vais vite aller voir celui qui en est responsable, et ainsi de suite. Et puis alors, des tests qui ressemblent à quelque chose d'un peu plus grandeur réelle, je vais prendre par exemple ça. Voilà des tests qui vont tester mes services web. Donc ici, voilà, j'ai différentes méthodes. En l'occurrence ici, une qui permet d'initialiser le test. Avant de commencer ces tests-là, je fais telle opération. Là, en l'occurrence, je vais me connecter à mes services web. Et puis ensuite, j'effectue un certain nombre de tests. Donc là, par exemple, je vais charger un artiste, je lui donne l'identifiant, je lui dis vas-y, charge-moi ça, Et puis, si ça m'a retourné un artiste, je considère que c'est bon. Voilà.
Donc
Noter aussi un truc super sympa.
là, tu es en train de tester le service, donc la couche bas niveau.
Exactement,
D'accord.
bas niveau. Alors, je pourrais tester un petit peu tout ce que je veux. Le fait est que c'est quand même assez pratique de tester cette portable Class Library, puisque une fois que j'aurai fait le test sur ce code-là, je vais augmenter la qualité de mon application Windows 8 d'un côté et de mon application Windows 8, en fait toutes les applications qu'il utiliserait. Donc c'est hautement intéressant. Notez le modèle asynchrone là, qui est super sympa. Vous voyez, sans effort, j'ai une méthode, elle me retournera sur le résultat quand elle veut, mais moi mon test il s'effectuera bien une fois ce résultat obtenu. Et du coup, comme l'expérience est totalement intégrée, je retrouve ici l'ensemble de mes tests. Alors tiens d'ailleurs que je pourrais vraisemblablement relancer. Maintenant que j'ai du réseau, ça ira peut-être un tout petit peu mieux. J'ai ici l'ensemble de mes tests, tout le temps disponible. Je peux même le paramétrer pour faire en sorte que, avec juste une case ici dans test, pour lui dire, écoute, à chaque fois que je fais un build, relance-moi mes tests unitaires et je serai prévenu pour savoir si, en fonction de ce que je code, je casse une règle ou pas. Et donc j'aurai mes résultats. Alors là, ça prend un tout petit peu de temps sur les tests qui ont lieu sur Internet. À mon avis, la connexion n'est pas
Voilà, donc de toute
extraordinaire.
façon, il
Voilà
est,
pour les tests unitaires.
c'est, ça y est, c'est le temps. Le temps
C'est le
est
temps, hein.
imparti. C'est dommage, on serait resté plus longtemps avec vous.
Avec grand plaisir. Bon, rapidos,
Parce que.
il y a des sessions quand même à aller voir. Notez celle-ci pour aller un peu plus loin sur la partie ALM,
Ça,
test,
c'est
etc.
important sur les
Ça
tests.
vaut vraiment le coup. Je souhaitais vous parler du store, mais en fait,
Ce qui est important sur le store, tu peux le dire, c'est quand même deux stores différents.
oui, aujourd'hui on peut le dire. Voilà, il y a deux stores. Différents, mais vous avec un même compte, c'est-à-dire vous authentifiez une fois, puis vous avez accès à l'un et à l'autre. C'est plus de 200 marchés qui sont à votre disposition. Ça serait vraiment dommage de vous en passer. Ça se fait assez gentiment, simplement. On a de très bonnes expériences là-dessus et les retours sont plutôt bons. Alors notez qu'il n'y a pas que cette histoire de store, et ça je tiens bien à le préciser là, même si on manque un tout petit peu de temps. Il est possible de déployer son application dans l'entreprise sans la mettre sur le store. Il y a un process pour cela. Pour garder le niveau de sécurité, c'est pas juste je copie l'exe dans un coin, j'exécute et hop, ça marchera comme il faut. Il y a un modèle qui doit être respecté, donc on vous permet de créer le certificat qui va bien, de signer vos applications et de les déployer dans votre entreprise sans passer par le système de validation du store. Pour aller plus loin là-dessus, vous avez des sessions spécifiques
J'aimerais
à
finir moi
noter.
juste
Vas-y.
sur. Alors n'oubliez pas de noter, noter la session et surtout l'accélérateur. Vas-y, hop, tu peux
Hop, il est
cliquer.
là.
Voilà, on a mis en place donc en fait cet accélérateur qui vous fournit un certain nombre de ressources, du coaching, de la visibilité. Alors c'est un accélérateur pas seulement pour Windows 8 ou Windows Phone 8, aussi pour Azure.
C'est tous les Windows.
Donc c'est tous les Windows. Donc voilà, notez l'adresse.
Ça vaut vraiment le coup, hein. Il y a des gens super compétents de la communauté qui sont derrière, qui vont juste vous demander quelques précisions sur votre projet. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez faire assez rapidement? À quel stade vous en êtes? Est-ce que c'est juste une idée? Est-ce que vous avez commencé le code, etc. Ils vont vous coacher vraiment. C'est gratuit, entièrement. C'est des passionnés qui parlent à des créateurs d'applications. Donc on fait de la mise en relation. Et puis il nous arrive, Eric et moi, d'intervenir aussi
Ça
sur
arrive.
ces apps-là
Oui, mais
pour
nous,
donner un petit coup de main.
on développe
Et on
plus.
adore faire ça. Voilà.
Merci beaucoup à tous. La matinée a été longue pour vous, j'imagine. Vous avez faim. Bon appétit et j'espère vous revoir
Si
très
vous avez des
bientôt.
questions off, moi je reste là quelques minutes, venez nous voir, on vous répond avec plaisir.